Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Ce sera notre 305e émission et notre 193e chronique. L'émission d'aujourd'hui sera un complément de printemps. Voici quelques semaines, je vous avais proposé une émission intitulée « La basse marche au temps gallo-romain ». Un auditeur m'a fait remarquer que ce n'était pas très logique de parler des temps gallo-romains alors que je n'avais pas traité de la basse marche au temps préhistorique. Je vais le faire aujourd'hui en m'appuyant sur les textes et les auteurs suivants. Histoire du Limousin et de la marche limousine de Joseph Noyac, monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles de Roger Drouot, petite histoire de Cieux d'Albert Hiverneau, la préhistoire à Saint-Sornin-la-Marche de Raymond Jetier, la préhistoire à Blon de Michel Dominique, la collection Deschamps de Bellac, l'abri sous roche du pont du Loup de Michel Dominique et le bulletin du Dolmen Club de Bellac de 1909. Dans une deuxième partie, je vous présenterai un complément à l'émission intitulée « Petite histoire de l'uranium en basse marche et ses marges ». J'utiliserai un texte de la troisième monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, coordonnée par Colette Marceau, et un compte-rendu de visite des élèves du collège de Saint-Sulpice pour traiter des mines d'uranium de Jouac.
Petite et grande histoire de la basse marche.
Dans son histoire du Limousin, l'historien Joseph Noyac s'essaie, par reconstitution, à la description de l'homme de la chapelle au sein de l'homme de Néandertal. Nous sommes dans la période du Moustérien, au paléolithique moyen, l'âge dit de la pierre taillée. Il a le corps petit, massif, et il chemine peut-être en fléchissant un peu ses courtes jambes. Sa tête et volumineuse, avec un crâne allongé et aplati, un front très fuyant, de grandes orbites arrondies et écartées sous des arcades sourcilières formant un gros bourrelet continu. Le nez est court et large, les maxillaires très forts étant projetés en avant, la bouche est en forme de museau et presque sans menton. Et il ajoute: ce petit être singulièrement trapu et robuste, cet homme du paléolithique possède cependant une réelle intelligence. Il a su allumer le feu, fabriquer des outils et des armes en silex taillé. Ce sont ces outils, bifaces, pointes, racloirs, qui furent retrouvés car en silex, ils étaient les plus solides, les moins vulnérables. Mais il possédait aussi des pieux en bois, des pierres pour taper, des feuilles pour essuyer, qui bien sûr ont disparu. Alors quels sont ces outils en silex que l'on a retrouvés et qui témoignent de la période ou du passage de ces hommes de l'époque de la pierre taillée? Des bifaces, un outil dont les deux faces opposées ont été travaillées afin d'améliorer le coupant de la lame, des hachereaux avec un tranchant en biseau, des pointes, des disques, des lames, des burins, des racloirs, des grattoirs, des couteaux, etc. Tous ces outils sont taillés dans des rognons de silex. Où trouve-t-on de tels outils sur le territoire de la Basse Marche? Bien, par exemple, dans la vallée de la Basine, affluent du Vincou. 11 pièces à Lagudet, 13 à Roche, dans la commune de Saint-Julien-les-Combes, 11 à Pommiers, dans la commune de Bellac. Mais aussi dans la vallée du Vincou, 9 pièces à Berneuil, 12 à Tovera, Le Vigneau, La Ganne, dans la commune de Bellac. Mais encore dans la vallée de la Gartempe, 9 pièces à Ballanche, commune de La Croix-sur-Gartempe, 16 à Saint-Bonnet-de-Bellac, particulièrement à Bezeau, mais aussi dans la zone des Monts de Blon, à Puy-Grenier, Château-Bâtard, Puy-de-Méry. Ou bien encore dans l'actuelle commune de Saint-Sornin-la-Marche, à Lâche-Canteau ou au Chêne-Blanc. Ces pièces, finalement bien peu nombreuses, sont en silex. En silex noir du Périgord ou de la Charente, ou en silex jaune du Grand Précigny dans le Poitou. Il n'y a pas de silex en basse marche. On peut donc en conclure que ces outils ont été abandonnés par des chasseurs venus du Périgord, de la Charente ou du Poitou. Et Roger Drouot, dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, nous confirme que les hommes du Paléolithique ne pouvaient guère vivre dans notre région de schiste et de granit, couverte de forêts denses, humides et surtout très froides. Seuls des chasseurs de passage traversèrent notre région et pour circuler, ils empruntèrent les vallées, celles de la Gartempe, du Vincou ou de la Basine, par exemple. Et Joseph Noyac d'expliquer, les précipitations de neige et de pluie rendent les plateaux inhabitables. Aussi, les hommes ne s'installent que sur les bordures méridionales, donc on le voit bien au sud de notre zone. Il ajoute que c'est dans ces zones méridionales, le Périgord par exemple, qu'ils passent l'hiver dans des grottes abritées du froid et des bêtes sauvages où ils mangent et se reposent après avoir l'été chassé le cheval, le renne, le bison et combattu l'ours ou l'hyène des cavernes. On comprend donc que notre zone ne fut guère occupée à l'ère paléolithique. Laissons passer quelques millions d'années et peu à peu la température va s'adoucir grâce à la chaleur et à l'humidité, de nouvelles forêts se développent. Mais celles-ci sont moins froides, moins inhospitalières. L'homme va quitter les zones calcaires du sud, va installer des campements de plein air. Il pratique toujours la cueillette et la chasse, mais l'agriculture commence à apparaître. Voici ce qu'écrit Albert Hiverneau dans son Histoire de Cieux à propos de cette période. Au néolithique, après la disparition des glaciers qui, à quatre reprises, ont recouvert une grande partie du pays, sans toutefois descendre jusqu'au mont de Blon. Le climat est devenu ce qu'il est pratiquement de nos jours. La faune et la flore sont à peu près celles que nous connaissons. L'homme préhistorique, tout en continuant à pratiquer la chasse, la pêche et les cueillettes, commence alors à créer ses sources de nourriture. Il cultive quelques céréales, donc il broie le grain au moyen de mortiers pour en préparer des galettes ou des bouillies. Il se livre à l'élevage du mouton, de la chèvre, du porc et il domestique le chien. Son outillage de pierre et ses ustensiles se perfectionnent. Il connaît non seulement les récipients de bois ou de peau, mais aussi la poterie. Il sait tisser et coudre les peaux qu'il a préparées. Il utilise encore les grottes et les abris sous roches, comme ceux de Basse-Forêt ou de Villeforcet dans la commune de Cieux, mais il vit principalement sur sa terre, dans des cabanes aux murs de rondins garnis d'argile et aux toits de branchages ou de chaumes, cabanes groupées sans doute en de véritables villages, mais dont il ne reste plus rien aujourd'hui, à l'exception de quelques silex ou de quelques charbons, car il connaît le feu depuis longtemps, et de quelques débris de poterie. De l'époque intermédiaire, le mésolithique, on trouve des traces d'occupation à Château-Bâtard ou à Rullière-Doumé dans la commune de Blon, mais encore à Saint-Sornin-la-Marche, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Arnac-la-Poste ou Saint-Hilaire-la-Treille. De cette époque, et surtout de celle qui va suivre, le néolithique ou période dite de la pierre polie, on a découvert une très grande quantité d'outils et d'armes, et cela pratiquement dans toutes les communes de la Basse-Marche. Ce sont des poings, des grattoirs, des racloirs, des perçoirs, des scies, des lames, des percuteurs, des burins, des ciseaux, des aiguisoirs, des affûtoirs, des meules, des tranchets, des poignards, des flèches, des haches polies, etc., etc. Je me répète, ces découvertes furent faites dans toutes les communes de la Basse-Marche. Pour ne citer qu'un seul exemple, un pharmacien de Bellac, M. Deschamps, avait rassemblé une très importante collection d'outils préhistoriques provenant des cantons de Bellac, de Mézières, du Dorat, de Magnac et de Nantia. C'est ainsi que pour le seul canton de Bellac, cette collection comptait 148 haches polies, 25 de la commune de Bellac, 51 de la commune de Blanzac, dont la majorité du hameau de Charbonnières, 6 de ces haches polies provenaient de la commune de Blon, 40 de celle de Peyrade-Bellac, dont 9 du Clisot, 11 de Saint-Bonnet-de-Bellac, 15 de Saint-Julien-les-Combes, dont 10 du hameau de la Gudet. On a également découvert des polissoirs à Mafran, dans la commune de Blanzac, ou encore dans la commune de Château-Ponsac. L'occupation de notre basse marche s'intensifie pendant cette période. En effet, l'homme va peu à peu constituer des campements au flanc des coteaux, aux confluences des rivières. Ces campements deviendront des villages de huttes. Nos hommes préhistoriques vont cultiver des céréales, du lin qu'ils savent tisser. Ils élèvent des animaux. La sédentarisation se poursuit, mais l'homme continue de chasser. Il lui arrive donc d'établir des camps temporaires, comme à Baldan ou à Villefourcet dans la commune de Cieux, l'abri sous roche de la Carrière dans la commune de Berneuil où l'on a découvert un foyer à feu, et celui du Pont du Loup dans la commune de Maillac-sur-Benaise. À propos de cet abri du Pont du Loup, voici ce qu'écrivent les préhistoriens qui ont fouillé cet abri. Notre premier mouvement fut de croire en la présence de sépultures, mais l'absence de débris humains, nombreux à Villefourcet, près de Cieux, semblerait prouver que l'abri a été occupé sporadiquement par des hommes du bronze ancien, à la fin de notre période, qui remontaient la vallée de la Vienne et ses affluents, comme le justifie le silex du grand Pressigny qui a servi à la confection de la plupart des pièces trouvées. Les poignards, les flèches, près des bords de l'abri ou dans les failles de rochers, font plutôt penser à des caches ou à des objets abandonnés par des hommes préhistoriques. À notre avis, écrivent-ils, l'abri a été habité occasionnellement entre deux crues par des hommes du bronze ancien venant du Grand Pressigny ou des régions voisines. En fait, tout semble prouver que cette région de Saint-Sulpice-les-Feuilles a été occupée d'une manière assez dense durant cette période de la préhistoire. On le voit donc, les hommes s'installent. Pour pratiquer les défrichements, l'agriculture, pour chasser, ils ont besoin d'armes, d'outils. Ils installent des ateliers de polissage, vont chercher des matériaux à la périphérie de la basse marche. La nature des matériaux que l'on a découverts à cette époque, le silex du Grand Pressigny, le jaspe de Montmorillon ou du Confolentais, nous indique que les échanges se développent et que s'installe déjà, le mot est sans doute trop moderne, une certaine forme de commerce.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Les hommes, nous l'avons dit, bâtissent des huttes pour les vivants, mais ils bâtissent aussi des demeures de pierre pour les morts. C'est une nouvelle civilisation qui s'installe, celle des mégalithes. Ces demeures de pierre, menhirs et dolmens, nous sont restées. On peut dès lors parler d'un peuple anté-limousin, où la basse marche d'aujourd'hui a joué un très grand rôle, dont la capitale peut se situer dans la zone des monts de Blon, avec Saint-Sulpice-les-Feuilles comme centre principal. Pour cela, nous rediffuserons bientôt l'émission consacrée aux mégalithes de la basse marche. Je reviens maintenant sur notre petite histoire de l'uranium en basse marche et ses marges. En m'appuyant sur la troisième monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, coordonnée par Colette Marceau, et un compte-rendu de visite des élèves du collège de Saint-Sulpice. Je vais vous parler de la mine d'uranium de Jouac. La Société des mines de Jouac, implantée depuis 1978 dans le nord de la Haute-Vienne, la Société des mines de Jouac, filiale à 100% de Cogéma, avait pour activité l'extraction et le traitement du minerai d'uranium. Le complexe minier, qui occupait une superficie de 192 hectares près de la route départementale 912, près de Lussac-les-Églises, était situé sur la commune de Jouac, à environ 70 km au nord de Limoges. L'investissement avait été de 175 millions de francs. La capacité de cette société était de 27 tonnes de minerai par heure, soit 125 kilos d'uranium. En effet, l'uranium permettait de fournir à l'époque 17% de l'électricité mondiale, dont 80% en France. Le gisement de Jouac avait été découvert en 1964 par les équipes de prospection de la compagnie minière de Dongtrieux, dont nous avons déjà parlé. Le gisement du Bernardin a d'abord été exploité en mine à ciel ouvert entre 1978 et 1987. Environ 400 000 tonnes de minerai ont fourni 1891 tonnes d'uranium. Le Bernardin profond a été découvert en 1980, son exploitation en mine souterraine démarra en septembre 83 et la production en novembre 85. Son âge géologique est estimé à 170 millions d'années. Ce gisement est réputé pour contenir le minerai le plus riche de France, 5,7 kg d'uranium en moyenne par tonne de minerai. Depuis le 23 juillet 1993, la Société des mines de Jouac était sous le contrôle de la Cogéma. Le personnel, la Société des mines de Jouac comprenait 6 cadres, 21 agents de maîtrise, 51 techniciens et employés, 73 ouvriers qui se répartissaient en 4 grands secteurs, géologie et sondage, mines, traitement, administration, finances et services rattachés. Au total, l'effectif de la Société des mines était de 151 personnes.
Grandes histoires de la basse marche.
L'usine de traitement du minerai. Alors la première phase ou préparation mécanique, alors tout d'abord le minerai subissait un concassage primaire pour le réduire en grains de 10 cm environ. Puis on effectuait une préparation chimique en arrosant celui-ci avec de l'eau. Là, un second concassage permettait de le broyer jusqu'à atteindre des grains d'un demi-millimètre. La boue de minerai ainsi obtenue était essorée. La deuxième phase, ou l'attaque acide. On prenait 140 kg par tonne d'acide sulfurique concentré que l'on mélangeait à ce minerai concassé dans une cuve en bois. On éliminait l'eau par un filtrage et on rajoutait du chlorate de sodium. La troisième phase, ou filtration-lavage. On filtrait ce mélange, puis on le lavait et on récupérait le jus que l'on purifiait par solvant dans des colonnes pulsées. On réextrayait de l'uranium dans la saumure et on réutilisait ensuite le solvant. La quatrième phase ou finition. On rajoutait à ce mélange plus de magnésie qui donnait une précipitation. On le filtrait à nouveau, puis on terminait par le séchage. Et à la fin, ce mélange donnait le fameux yellow cake. On rajoutait au yellow cake de l'uranate de magnésie que l'on transportait jusqu'à l'usine de Narbonne. Cette usine fabriquait du tétrafluorure d'uranium vert, puis il en résultait de l'hexafluorure d'uranium qui était un solide gris. Thank you. ciel ouvert et mine souterraine. La mine souterraine, l'accès à la mine s'effectuait par une galerie de 5 mètres de large par 4 mètres de haut, pontée à 15%, qui reliait les différents amas. Des galeries secondaires, de même pente, mais de sections plus petites, descendaient ensuite en spirale autour des colonnes minéralisées et permettaient l'accès direct aux minerais. Plus de 8000 mètres de galeries ont été réalisés. Lors de la visite, 11 élèves du collège de Saint-Sulpice-les-Feuilles sont descendus au fond de la mine. Pour avoir la possibilité de descendre, il a fallu les équiper d'une combinaison, d'un casque, de bottes, d'un dosimètre et d'un boîtier fabriquant de l'oxygène en cas d'incendie. Ainsi harnachés, nous sommes descendus dans des galeries très étroites de 5 mètres de large et de 4 mètres de haut. La mine à ciel ouvert. Le début de l'exploitation de la mine à ciel ouvert a commencé en 1978. La surface découverte était d'environ 7 hectares et d'une profondeur de 115 mètres. La hauteur des gradins était de 13 mètres avec une inclinaison de 60 à 75% et d'une largeur banquette de 5 mètres. La largeur de sa piste était de 11 mètres et sa pente de 10%. La fermeture de la mine de Jouac. Eh oui, la dernière mine d'uranium de France a fermé. En effet, il n'y avait plus assez de ce minerai. Déjà en 1987, la mine à ciel ouvert avait été fermée car le gisement était épuisé. On n'exploitait donc plus que la mine souterraine. La fermeture de Jouac avait été prévue pour l'an 2001 car exploiter le gisement plus profond aurait été trop coûteux par rapport à la quantité d'uranium extrait. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche qui fut consacrée à la basse marche au temps préhistorique et à la mine d'uranium de Jouac. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Joseph Noyac, de Roger Drouot, d'Albert Hiverneau, de Raymond Jetier, de Michel Dominique, de Colette Marceau et du bulletin du Dolmen Club de Bellac. Pour les accompagnements musicaux, j'ai fait appel au groupe Maluzerne, au compositeur Frédéric Laurent et au duo presque classique que nous écoutons en ce moment. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempoix et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Petites et grandes histoires de la basse marche.